Le Saint Graal, chapitre 12. Quête de Lancelot, les blancs chevaliers et les noirs chevaliers, l'eau infranchissable. Il n'avait pas beaucoup cheminé lorsqu'il rencontra deux parties de chevaliers, les uns vêtus d'armes noires, les autres d'armes blanches, qui combattaient. Il courut à la rescousse du parti noir qui était le plus faible, et commença de faire des merveilles d'armes contre les chevaliers blancs, en sorte que tout le monde lui eût donné le prix du tournoi. Et pourtant, il ne pouvait abattre aucun de ceux auxquels il s'adressait. Vainement frappait-il sur eux comme dessus une pièce de bois. Il ne semblait pas même sentir ses coups. Si bien qu'à la fin, il se trouva là, au point qu'il ne pouvait plus supporter le poids de ses armes, ni tenir son épée. Alors les chevaliers blancs s'emparèrent de lui, et ils le gardèrent toute la nuit. Puis, quand le jour fut clair et beau, ils le laissèrent aller. Il s'éloigna, songeant tristement qu'il avait perdu jusqu'au pouvoir de son corps, puisqu'il s'était vu prisonnier, lui qui n'était jamais venu à un tournoi sans en remporter l'honneur. Et il chevaucha de la sorte, si dolent qu'il ne savait plus qu'à peine ce qu'il faisait, jusqu'à l'heure de nonne qu'il sentit son cheval s'arrêter. À ses pieds coulait une large et tumultueuse rivière. Il regarda, il était dans un profond vallon, encaissé entre deux roches à pic. Il se préparait à retourner sur ses pas, lorsqu'un noir chevalier sortit soudain de l'onde et vint tuer son destrier. Alors Lancelot s'avança jusqu'au bord du fleuve, et là il s'arrêta. Devant lui, l'eau infranchissable. À sa droite et à sa gauche, des roches inaccessibles. Derrière, la forêt déserte, où il devait 100 fois mourir de faim. Il ôta ses armes, s'étendit sur le sol, les bras en croix, la tête tournée vers l'Orient, et il se mit en prière, résolu d'attendre là que notre sire lui envoya secours. Mais le comte le laisse à présent, et devise de Monseigneur Gauvin, le neveu du roi Artus, dont il n'a point parlé depuis longtemps. Chapitre 13. Quête de Gauvin, le pêcheur endurci, mort d'Yvain le Grand. Après qu'il eut quitté ses compagnons, il chevaucha plusieurs jours sans trouver d'aventure qui vaille d'être contée. Un soir, il arriva près d'un ermitage où il reçut l'hospitalité au nom de la Sainte Charité. L'ermite, qui était vieux et ancien, la lui accorda, et après lui avoir donné à manger, le mit en parole et l'exhorta à se confesser, en lui alléguant de beaux exemples tirés des évangiles, et en lui disant de songer au grand jour du jugement, où les saints eux-mêmes trembleront comme la feuille du figuier, quand Jésus-Christ montrera ses plaies et les fera saigner. Messire Gauvin regarda celui qui le conseillait ainsi, et, le voyant si prud'homme, il lui avoua tout ce dont il se sentait coupable envers notre Seigneur, et d'abord qu'il ne s'était pas confessé depuis 14 ans. « Sire, lui dit le prêtre, quand vous reçûtes l'ordre de chevalerie, ce ne fut point pour devenir le serviteur de l'ennemi, mais pour que vous fussiez le champion de Dieu et rendissiez à votre Créateur le trésor qu'il vous avait donné à garder, c'est votre âme. Et voilà que votre vie a été la plus mauvaise et la plus souillée qu'un chevalier ait jamais menée. Pourtant, si vous vouliez vous amender, vous pourriez encore faire votre paix avec notre Seigneur, à condition de vous repentir de vos péchés. » Mais messire Gauvin répondit qu'il ne pouvait souffrir de pénitence, et le prud'homme cessa de lui en parler, voyant que ce serait peine perdue. Le lendemain, messire Gauvin repartit. Puis il chevaucha sans aventure jusqu'à la Madeleine, qu'il rencontra Hector des Mars. Et certes, tous deux eurent grande joie de se revoir sains et saufs. « Par ma foi, dit Hector, j'ai vainement parcouru des terres lointaines, des pays étrangers, des forêts sauvages, et j'ai crevé plus de 10 chevaux, dont le pire était de grand prix, mais je n'ai trouvé aucune aventure. Cependant, j'ai rencontré 15 ou 20 de nos compagnons. Nul n'en a eu plus que moi. » Car tel fut le sort des chevaliers de la Table Ronde quand ils furent en quête du Saint Graal. Hormis Galad, Perceval, Bors et Lancelot, il ne leur arriva rien qui mérite d'être rapporté dans un livre. Et ils s'en ébahirent beaucoup, car ils avaient pensé qu'en une si haute quête, ils pourraient faire maintes chevaleries. Messire Gauvin et Hector résolurent de cheminer ensemble quelque temps. Un jour, qu'ils traversaient une prairie verdoyante, ils aperçurent un chevalier, armé de toutes armes, qui leur cria du plus loin qu'il les vit « Joute ! Joute !»« Oh, nom Dieu ! » dit messire Gauvin, « c'est la première occasion de jouter que je trouve depuis mon départ de Camalotte. Puisque celui-ci requiert bataille, il l'aura. »« Beau sire, laissez-moi faire, s'il vous plaît !» demanda Hector. Non, par ma foi. Ce disant, messire Gauvin mit lance sur feutre et s'élança, bruyant comme Alérion, tandis que l'inconnu s'adressait à sa rencontre. Tous deux poussèrent leurs lances et les appuyèrent de telle force que les sursangles, les sangles, les bricoles, les arçons rompirent et qu'ils se portèrent à terre, la selle entre les cuisses, si rudement que le cœur leur en pensa éclater. Mais aussitôt qu'ils purent, ils se relevèrent et se coururent su, l'épée nue. De son premier coup, le chevalier fendit l'écu jusqu'à la boucle et atteignit le haume dont il fit sauter les fleurons et les pierreries. Gauvin sentit le choc, mais son courage s'en accrut. Il haussa son arme et l'abattit de telle sorte, à son tour, qu'il trancha l'écu en deux parties, coupa le haume, la coiffe de maille et la peau du crâne. Dans le même temps, son adversaire, d'un revers, lui cassait deux dents et lui faisait cracher son sang rouge. Mais le milieu du jour approchait, et tel était le don qu'avait reçu messire Gauvin, qu'à tierce sa valeur doublait. À midi, elle quadruplait. Furieux, il saisit le chevalier dans ses bras, où il le serra si fort que l'autre fut au point de pâmer de douleur. Et, quand il le vit ainsi, il le laissa choir et lui bouta son épée dans la poitrine. Puis, sans la retirer, du coup il lui arracha son haume en brisant les lacs. Et il reconnut à ce moment Monseigneur Yvain le Grand, fils du roi Urien. Alors il sentit son âme se serrer, et l'eau du cœur lui monta aux yeux. Il souleva doucement son compagnon très ancien, il le plaça sur son propre cheval, et le soutenant par les flancs, suivi d'Hector qui portait en pleurant le haume du blessé, il le conduisit à une blanche abbaye qui s'élevait non loin de là. « Beau sire, lui dit en arrivant messire Yvain, c'est par la volonté du Sauveur et pour mes péchés que vous m'avez oxy, et je vous le pardonne de bon cœur. En nom Dieu, si vous retournez à la cour du roi Artus, saluez ceux de la Table Ronde qui reviendront vivants de cette haute quête, et demandez-leur qu'il prie notre Seigneur d'avoir pitié de moi. » Puis il confessa ses péchés à un moine et reçut le Corpus Domini. Après quoi il dit encore « Doux amis, je vous requiers maintenant d'ôter votre épée de mon corps. » En pleurant, messire Gauvin mit la main à la poignée et doucement retira la lame qu'il avait plongée dans la poitrine de son ami. Mais le blessé s'étendit d'angoisse entre les bras d'Hector et son âme abandonna son corps. Alors les deux chevaliers songèrent à tant de prouesses qu'ils lui avaient vu faire, et ils commencèrent de mener le plus grand deuil dont on n'ait jamais entendu parler. « Sachez que messire Gauvin pâma de douleur plus de 3 fois, coup sur coup. » Puis ils ensevelirent leurs compagnons dans un très riche drap de soie que les moines apportèrent quand ils surent que le mort était fils de roi. Et sachez que messire Yvain fut enterré devant le maître-autel, sous une belle tombe où l'on écrivit son nom, et le nom de celui qui l'avait toxé. Mais le comte laisse maintenant ce propos pour dire ce qui advint à bord de Gannes. Chapitre 14. Quête de bord, la confession. Dans la forêt, il rencontra un religieux qui cheminait humblement sur son âne, sans nulle compagnie de sergent ni de valet. Et, après avoir demandé au prud'homme s'il était prêtre, il lui requit confession. Car Bord n'était pas si fou que de se mettre en quête du Saint Graal, tout sale et noir de péché. « En nom Dieu, répondit le religieux, si je refusais et que vous mûrissiez en péché mortel par faute d'aide, vous me pourriez appeler au grand jour du jugement devant la face de Jésus-Christ. Aussi vous conseillerais-je du mieux que je pourrais. Qui êtes-vous ? Bord de Gannes, fils du roi Bord et cousin de Lancelot du Lac. Certes, Bord, vous devez être bon si, comme dit notre sire, le bon arbre fait le bon fruit, car votre père fut un très prud'homme, et la reine Évène, votre mère, une des meilleures dames du monde. Le fils du chat doit bien prendre souris. Sire, un homme extrait de mauvaise souche est changé d'amertume en douceur sitôt qu'il a reçu le baptême. C'est pourquoi il m'est avis que sa bonté ou sa méchanceté ne dépend pas de son père et de sa mère, mais de son cœur. Le cœur de l'homme est semblable aux avirons qui conduisent la nef, soit au port ou au péril. Tout en causant ainsi, ils étaient arrivés à la maison de l'ermite, où Bord se confessa des offenses qu'il avait faites à son créateur. Mais, bien qu'il eût vécu dans les folies du monde, il n'était souillé d'aucun autre péché de chair que celui qu'il avait commis jadis avec la fille du roi Brangor d'Estrangor, de qui était né son fils, Hélin le Blanc, et le prêtre s'en émerveilla. Pourtant, il lui enjoignit de ne manger que pain et eau et de porter, en guise de chemise, une rude bure blanche sous un manteau vermeil jusqu'à la fin de la quête du Graal. Et Bord reçut le Corpus Domini. Puis il reprit sa route, armé comme doit l'être un chevalier célestiel, et bien défendu contre l'ennemi. Chapitre 15. Quête de Bord. Lionel sans secours, le faux religieux. Vers l'heure de nonne, il vit un oiseau blanc comme l'aine qui arrivait à tire-d'aile et se perchait sur un arbre. Là, l'oiseau, trouvant ses petits tout froids morts dans leur nid, commença de mener grand deuil. Puis il se frappa la poitrine du bec, qu'il avait aigu et tranchant, si rudement que son sang jaillit. Et les oiselets, baignés de sang chaud, reprirent vie, tandis que leur père expirait entre eux. Bord continua son chemin, méditant sur la signifiance de cette aventure. Mais il n'avait pas fait une lieue galloise qu'il vit passer deux fers vêtus qui emmenaient son frère Lionel, habillé de ses seuls brais, les mains liées, sur un roussin. Et il le battait au sang, mais sans lui arracher un cri, tant il était de grand cœur. Et Bord allait s'élancer au secours de son frère, lorsqu'il aperçut d'autre part un chevalier tout armé qui emportait une pucelle au plus épais de la forêt. « Sainte Marie-Dame » criait-elle, « secourez-moi, à l'aide !» Alors Bord fit passer l'amour de Jésus-Christ avant son sentiment naturel, et sans se soucier de son frère, il se jeta à la poursuite du chevalier qui enlevait la pucelle. Sachez que ce fut là une des choses dont notre sire lui sut le plus de gré. Il vainquit sans peine le ravisseur. Mais quand il voulut rejoindre ceux qui emmenaient Lionel, il ne put les découvrir. Longtemps, il erra sous les arbres. Enfin, il rencontra un homme vêtu comme un religieux et monté sur un grand cheval, plus noir que mûr, qui lui demanda ce qu'il cherchait. « Ah, sire, mon frère !»« Venez avec moi, et vous le verrez. » et le rendu le mena à quelque distance de là, où il lui montra dans un fourré le corps de Lionel, qui gisait, percé de coups, tout sanglant. À cette vue, quelle angoisse poignit Bahorre au cœur. Il chut à terre tout pâmé. « Las, doux frère ! » s'écria-t-il en revenant à lui. « Qui donc vous a traité si durement ? Jamais plus je ne connaîtrai la joie. » Ce disant, il prenait le mort dans ses bras et le serrait sur sa poitrine, menant si grand deuil que c'était merveille de le voir. Enfin, il demanda s'il n'était alentour quelque chapelle où l'on pût enterrer Lionel. « Suis-moi, » répondit l'homme vêtu d'une robe de religion. « Mais tout d'abord, sache que cette douleur t'est venue en punition de ton orgueil sans frein. Car tu es semblable à ce pharisien qui disait en entrant au temple, « Beau sire Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas aussi mauvais que mes voisins. » Et sache que cet oiseau que tu as vu et qui venait à toi à tire-d'aile signifie une demoiselle riche, belle et de bon lignage, qui t'aimera d'amour et te priera d'être son amie. Si tu les conduis, elle en mourra de chagrin. Et les oiselets qui ont repris vie lorsqu'ils ont été baignés du sang de leur père signifient les péchés que sa mort ferait naître. En effet, ce ne serait point par crainte de Dieu que tu les conduirais. Mais pour être loué dans le siècle et pour avoir la vaine gloire du monde. Et ainsi tu serais plein de vanité et doublement homicide, car tu l'es déjà de ton frère, que tu n'as pas secouru quand tu as préféré délivrer cette pucelle qui n'est pas de ta parenté. Regarde, s'il valait mieux qu'elle fût forcée ou qu'un des meilleurs chevaliers du monde fût toxi. » À écouter de telles paroles, Bahorre se sentait tout troublé, et son guide ne tarda guère à lui montrer une sorte de chapelle, toute vieille et ruineuse, au milieu de laquelle s'étendait une lame de marbre. Il posa là-dessus le corps de Lionel et se mit en quête d'eau bénite, mais il n'en trouva goutte. « Bahorre, lui dit l'homme vêtu des draps de religion, je reviendrai demain faire le service de ton frère. En attendant, nous nous hébergerons dans la maison voisine. » Le chevalier craignit, en refusant obéissance au prud'homme, de tomber encore dans le péché d'orgueil, et il l'accompagna à un manoir qui s'élevait non loin, et où une dame, qui avait en elle toute la beauté terrienne, leur fit grand accueil. Chapitre 16. Quête de Bahorre, la tentation. Or, quand les lumières furent éteintes et que Bahorre se fut endormi dans son lit, il advint qu'il fut réveillé par une main qui se posait sur son épaule, et il vit la dame du logis, en sa pure chemise, qui lui disait « Sire chevalier, faites-moi place, afin que je me couche auprès de vous. » Il répartit qu'il lui laisserait le lit, et ce disant, il se leva en chemise et en braie. « Beau sire, reprit-elle, recouchez-vous. Je vous promets que je ne vous toucherai que si vous le voulez. Mais faites-moi droit comme il sied à un chevalier. Je ne fis jamais tort ni vilenie à dame ou demoiselle, et je ne commencerai point par vous. Grand merci. Vous savez bien que selon la coutume du royaume de l'ogre, un chevalier doit secourir toute demoiselle qui requiert son aide, sous peine de perdre son honneur. Secourez-moi donc. Et comment ? En couchant avec moi. Êtes-vous demoiselle ? On croirait que non, tant vous semblez ribaude. Et massiez-vous un chevalier plus que tout, vous ne devriez pas lui dire de semblables paroles, ni à plus forte raison le requérir ainsi la première. D'ailleurs, je ne puis vous croire si folle. Vous voulez sans doute m'éprouver. Ah, Bahorre, si je ne vous aimais pas plus que jamais femme n'aima, vous ferais-je une telle requête? Je vous prie de me secourir, comme je vous l'ai demandé. Si vous y manquez, je vous tiendrai pour failli et vaincu. Je me tiendrai pour vaincu bien davantage, dit Bahorre, si je faisais ce que vous voulez. Remettez-vous donc au lit, sire chevalier. Je ne voudrais pas faire mon ami d'un honni, d'un récréant. » Bohort s'étendit entre les draps. Aussitôt, la félonne s'élança à ses côtés et, le tirant par sa chemise, elle feignait d'être bien désireuse de l'embrasser. Mais lui, il la prit et la posa à terre, où il la maintint quelque temps si rudement qu'elle ne pouvait bouger. Alors elle se mit à se plaindre, disant qu'elle se sentait malade, et à l'implorer. « Pour Dieu, accordez-moi ce que je vais vous demander. Ce ne sera pas contre votre honneur, mais il faut que je vous le dise à l'oreille. » Bohort se baisse, elle prend son temps et le baise sur la bouche. Irrité, il saute sur son épée, jurant qu'il lui couperait la tête si elle n'était femme. « C'est ce qu'on verra !» dit-elle en courant encore à lui les bras tendus. Il s'enfuit de la chambre, essuyant, frottant ses lèvres et gravit jusqu'au faîte de la tour. Mais la demoiselle l'y suit bientôt, accompagnée de 12 pucelles, et s'écrie « Voyez donc comme je mourrais pour l'amour de vous !» À quoi l'une des pucelles ajoute en pleurant « Ah, sire, faites ce que veut madame, ou bien nous nous laisserons toutes tomber d'ici, car nous ne pourrions souffrir sa mort. Jamais chevalier ne fit si grande déloyauté que de laisser mourir des femmes pour si peu de choses. » Bohort les prenait en grande pitié. Pourtant, il aimait mieux qu'elles perdissent leurs âmes que lui la sienne. Et il répondit qu'il ne ferait pas ce que voulait la dame, ni pour leur mort, ni pour leur vie. Aussitôt, la femme et les 12 pucelles se laissèrent choir, l'une après l'autre, du sommet de la tour, dont il fut si émerveillé qu'il leva la main pour se signer. Et dans le même instant, le château et la fausse chapelle et le prétendu corps de son frère, tout disparut au milieu d'un si grand bruit qu'on eût cru que tous les diables de l'enfer hurlaient autour de lui. Et sans faute, il y en avait plusieurs. Chapitre 17. Quête de Bohort, la mortification. Alors il tendit ses mains vers le ciel et remercia Dieu. Et quand il eut prié, il comprit le vrai sens de ce qu'il avait vu le matin, et que l'oiseau blanc signifiait notre Seigneur, et ses petits, les hommes, qui furent comme morts jusqu'à ce que le Fils de Dieu fût monté sur l'arbre, c'est-à-dire sur la croix, et eût été blessé au côté droit par la lance, couvrant de son sang ces créatures et leur rendant la vie. Comme il chevauchait en roulant ses pensées, il rencontra 6 valets qui chantaient joyeusement. Ils portaient des écus à leur cou, menaient des chevaux en main et faisaient conduire devant eux une charrette pleine de lances. Bohort leur demanda où ils allaient avec tout ce harnais. « Sire, nous sommes à Mélian d'Ulysse et nous rendons au tournoi qui aura lieu demain au château de Cybèle. Sachez qu'on y verra les plus hauts hommes de Bretagne. » Bohort songea qu'il pourrait trouver à Cybèle quelque compagnon de la table ronde, ou tel qui lui donna des nouvelles de son frère, et il suivit les traces des valets. Pourtant, sur l'heure de nonne, comme il passait devant une maison forte, il décida d'y demander à coucher, parce que son cheval était fort là. Justement, le vavasseur était devant sa porte, causant avec quelques sergents. « Beau sire, dit-il à Bohort, s'il vous plaît de vous héberger ici, vous serez demain avant prime à Cybèle, c'est tout proche. Jamais je n'ai vu passer tant de belles chevaleries, ni de si riches harnais. » Bohort entra dans la maison, où des valets vinrent prendre son cheval et le désarmèrent sous l'orme de la cour. Puis, après qu'il eut été lavé et baigné par des pucelles, et qu'on lui eut mis un riche manteau d'écarlate sur les épaules, il fut conduit dans la salle où l'on servit le souper. Et certes, rien n'y manqua de ce qui convient à corps d'homme. Toutes les chairs les plus fines, oisons, chapons, rôtis, poules, cygnes, paons, perdrix, faisans, hérons, butors, toutes les sortes de venaisons, Cerfs, daims, sangliers, chevreuils, lapins, poissons à foison, esturgeons, saumons, plis, congres, rougets, morues, barbus, mulets, bars, soles, brèmes, maquereaux gras, merlans replés, harengs frais. Toutes les sauces les mieux épicées, au poivre, à la cameline, au verjus de grain et en beaucoup d'autres guises. Brochets et lamproies en galantine, anguilles et tourterelles en pâté, mille espèces de pâtisseries, tartes renversées, gaufres, oublis, gougères, flans, pommes d'épices, crépines, darioles, beignets, rissoles. Les vins les plus précieux, vin au piment, vin au gingembre, vin aux fleurs, vin rosé, moré, isopé, claré, vin de Gascogne, de Montpellier, de La Rochelle, de Beaune, de Saint-Pourçain, d'Auxerre, d'Orléanais, de Gâtinais, de Léonais. Tant de vin qu'il y en eût eu assez pour remplir un vivier et que les garçons et bouviers en laissèrent dans les pots. Mais Bohor se contenta de couper 3 tranches de pain qu'il mangea après les avoir trempées dans un hanape d'argent plein d'eau. « Beau sire, disait son hôte, ces mets ne vous plaisent-ils point ?»« Si fait, beau sire, pourtant je ne mangerai aujourd'hui autre chose que ce que vous voyez. » Quand l'heure de dormir fut venue, le vavasseur conduisit Bohor dans une chambre toute illuminée où il lui avait fait dresser un lit digne d'un roi. Couverture de verre, de petits gris, d'hermine, riches courtes pointes, blancs oreillers, coussins, couettes, larges tapis bien ouvrés, rien n'y manquait. Mais Bohor n'accepta pas qu'on fît coucher aucun sergent auprès de lui dans la chambre, et quand tout le monde fut sorti, il éteignit les cierges, s'étendit sur le sol, à la dure, mit un coffre sous sa tête et s'endormit dans la paix de notre Seigneur après avoir fait ses prières et oraisons. Et le lendemain, quand l'aube naquit et que le guetteur eut corné, il défit le lit de manière qu'on ne pût soupçonner qu'il n'y avait point couché. Ensuite il alla dans la chapelle entendre matine et le service du jour, et il se remit en route après avoir recommandé son hôte à Dieu. Chapitre 18. Quête de Bohor, Lionel furieux. Comme il débuchait dans la prairie de Cybèle, il aperçut une chapelle et s'y rendit tout aussitôt, car jamais il ne passa auprès d'une des maisons de Dieu sans y entrer, par révérence. Et en approchant, il aperçut Lionel, tout désarmé, assis devant la porte. Aussitôt il sauta de son cheval et courut à lui joyeusement. « Doux ami, depuis quand êtes-vous là ?» Lionel reconnut bien son frère. Pourtant, il ne bougea point. « Ce ne fut pas votre faute, » dit-il en lui lançant un regard irrité, « si je n'ai pas été oxy hier par les 2 chevaliers qui m'avaient pris en trahison. Vous préférâtes secourir la demoiselle et me laisser en péril de mort. Jamais un frère ne fit à son frère une telle déloyauté. C'est pourquoi sachez que vous n'avez à attendre de moi que la mort. » À entendre Lionel parler ainsi, Bohor fut si dolent qu'il ne put que se jeter à genoux et le prier à main jointe de pardonner. Mais l'autre courait déjà prendre ses armes et bientôt revint sur son destrier. « Cœur failli, dit-il, je vous traiterai comme on doit faire un félon, car vous êtes bien le plus déloyal chevalier qui jamais soit né d'un prud'homme. Montez sur votre cheval, sinon je vous oxyrai à pied comme vous voilà, et la honte en sera pour moi, mais le dommage pour vous. » Bohor ne savait que décider, car il ne voulait pas combattre son aîné à qui il devait révérence, ni blesser son frère. À nouveau, il s'agenouilla devant les pieds du cheval, en pleurant et criant merci. Mais le furieux poussa son destrier, qui abattit Bohor et le foula de telle sorte qu'il pensa bien mourir sans confession. Et quand Lionel vit son frère pâmé, il sauta à terre et il allait lui couper la tête, lorsqu'un vieux prêtre sortit de la chapelle et courut se jeter entre eux. « Pour Dieu, franc chevalier ! S'écria-t-il. « Aie pitié de toi et de ton frère. Si tu l'oxies, tu feras un trop grand et mortel péché. » « Sire prêtre, dit Lionel, ôtez-vous de là, ou bien je vous tuerai, et il ne sera point quitte pour autant. » « J'aime mieux que tu m'ôtes la vie qu'à lui, ce ne sera pas si grand dommage. » Il n'avait pas achevé que Lionel, fou de colère, tirait son épée et lui défonçait la tête. Après quoi, il se mettait en devoir de délasser le homme de bord pour lui trancher le cou. Lorsque Dieu voulut qu'un des compagnons de la table ronde, qui avait nom Calogrenant, vint à passer par là. Et voyant que Lionel se préparait à tuer son frère, il sauta à terre, le saisit par le bras et le tira si rudement en arrière qu'il le fit tomber. « Cœur sans frein, êtes-vous hors de sens? Voulez-vous oxyre votre frère Germain? Et vous, le voulez-vous secourir? Si vous vous entremettez, je m'en prendrai à vous. » Ce disant, Lionel se relevait et retournait à bord. « Ne soyez point si hardi que d'approcher de lui !» s'écria Calogrenant. Déjà le furieux lui courait su, l'écu levé, l'épée au poing. Mais Calogrenant était bon chevalier et de grande force, en sorte que la bataille dura assez longtemps pour que Bohor revînt à lui. Ah, quel deuil il eut quand il rouvrit les yeux! Si Calogrenant tuait Lionel, il sentait qu'il ne connaîtrait plus jamais la joie. Si Lionel tuait Calogrenant, qui combattait pour lui, il serait honni à jamais. Et comment les séparer quand il était lui-même en si mauvais point? À ce moment, Lionel commençait de prendre le dessus, et l'autre, son écu dépecé, son aume décerclé, blessé en 10 endroits, n'attendait plus que la mort, lorsqu'il aperçut que Bohor regardait la bataille, assis sur son séant. « À l'aide, Bohor » cria-t-il. « Jetez-moi hors de ce péril où je me suis aventuré pour vous, qui êtes plus preux que je ne suis. » À grand-peine, Bohor se remit debout, se signa et rajusta son aume, gémissant de pitié à voir le cadavre du prêtre qu'il venait de découvrir. Mais Lionel, à cet instant, d'un dernier coup d'épée, jetait mort Calogrenant. Et aussitôt courant à son frère, qui encore une fois le priait humblement de pardonner, il lui asséna un tel revers sur le haume qui lui fit plier les genoux. En pleurant, Bohor tira alors son épée, et il allait frapper pour se défendre, lorsqu'un brandon de feu tomba du ciel entre les deux frères, figurant comme la foudre, et si flamboyant que leurs écus en furent brûlés, et qu'ils churent tous deux sur le sol, où ils demeurèrent pâmés durant un aussi long temps qu'il en faut pour faire une lieue à pied. Quand il reprit son haleine, Bohor reconnut que Lionel n'avait point de mal, et remercia Dieu. Puis il s'approcha de son frère, qui était encore tout étourdi. « Vous avez mal agi, lui dit-il, en tuant ce prêtre et ce chevalier qui était notre compagnon à la table ronde et le cousin germain de Monseigneur Yvain, fils du roi Urien. En nom Dieu, veillez que leur corps soit mis en terre et qu'on leur rende les honneurs qui leur sont dus. « Et vous ? » murmura Lionel. « Ne resterez-vous ici jusqu'à ce qu'il soit enseveli ? » ?»« Non, je vais au rivage de la mer, où je sais que quelqu'un m'attend. » Là-dessus, Bohor enfourcha son destrier et s'en fut. Et il chevaucha tant qu'il arriva au bord de la mer. Et là, il vit une nef, la plus haute et la plus riche qui ait jamais été, sur laquelle Perceval le Gallois lui faisait signe de monter. Il y entra, après s'être recommandé à Jésus-Christ. Mais, à son grand regret, il n'eut pas le loisir d'y faire passer son cheval. À peine y eut-il mis le pied, le vent frappa les voiles et la nef cingla vers la haute mer, légère comme l'émerillon volant sur sa proie. Mais le comte laisse maintenant cette nef et retourne à Galaad, le bon chevalier. Chapitre 19. Quête de Galaad, Gauvain abattu. Après avoir quitté le château aux Pucelles, il mit à fin maintes aventures dont le comte ne dit mot. Mais c'est qu'il y aurait trop à faire si l'on voulait les narrer l'une après l'autre. Un jour, dans un tournoi, il rencontra Monseigneur Gauvain et Hector, et il ne les reconnut point, car ils avaient changé leurs armes. Mais eux, sitôt qu'ils eurent aperçu l'écu blanc à la croix vermeille, ils se dirent l'un à l'autre « Voilà l'écu dont le roi Édier nous a parlé. C'est Galaad. Celui qui l'attendrait serait fou, car rien ne peut durer contre lui. » Or, dans le même instant, le bon chevalier arrivait, fracassant comme la foudre, et au passage, d'un seul coup d'épée, il fendit le haume et la coiffe de fer de Monseigneur Gauvain, lui trancha le cuir et la chair jusqu'à l'os et lui fit vider les arçons. Ce que voyant, Hector s'éloigna un peu, tant parce qu'il songea que c'eût été sottise que de se mesurer contre l'homme capable de donner de tels coups, que parce qu'il devait aimer et protéger son neveu Galaad plutôt que le combattre. Et tous les chevaliers du tournoi furent dolents quand ils surent que c'était Monseigneur Gauvain qui avait été navré de ce grand coup, car il était l'homme du siècle le plus connu et le plus aimé de toutes gens. Ils le portèrent au château, où il fut désarmé et couché dans une chambre, loin du bruit. Puis ils mandèrent un médecin et lui promirent qu'il le ferait riche s'il guérissait le blessé, à quoi le mire s'engagea. Galaad, cependant, continuait son chemin, et bientôt il vit venir à sa rencontre une demoiselle tout enveloppée de voiles de lin qui lui dit « Galaad, suivez-moi en nom Dieu, je vous mènerai à la plus haute aventure qu'un chevalier ait jamais connue. » Elle le conduisit droit au rivage de la mer. Là se trouvait la nef qui portait Perceval et Bors. « Sire, soyez le bienvenu !» s'écrièrent les deux chevaliers, « car nous vous avons longuement attendu. » Alors le bon chevalier et la pucelle ôtèrent à leurs chevaux le frein et la selle et leur donnèrent la liberté pour qu'ils trouvassent leur pâture. Puis, après avoir fait le signe de la croix, ils entrèrent dans la nef qui cingla vers le large aussitôt. Chapitre 20. La nef de Salomon, le lit, l'épée, les fuseaux. Or, lorsqu'elle vogua en pleine mer et que les trois chevaliers se furent contés leurs aventures, Perceval regarda la demoiselle qui s'était dévoilée, et il reconnut la muette qui s'était mise à parler le jour qu'il avait été armé chevalier par le roi Artus et qu'il avait fait asseoir à la table ronde, celle qu'on nommait la pucelle qui jamais ne mentit. « Seigneur, dit-elle aux trois chevaliers, je vous annonce premièrement, comme à ceux que j'aime le plus au monde, que si vous n'aviez pas une foi parfaite en Jésus-Christ, vous péririez sur cette nef. Et maintenant, regardez de part et d'autre. » Ils visitèrent le navire, et en examinant toute chose, ils découvrirent sous des courtines de soie le plus beau et riche lit qui ait jamais été. Au pied, quelqu'un avait posé une couronne d'or. Sur le chevet gisait une épée à demi tirée de son fourreau, qui était de très riche façon. Le pommeau était d'une seule pierre qui avait toutes les couleurs de la terre, et chacune de ces couleurs avait sa vertu. La poignée était faite de deux côtes, l'une du serpent nommé Papaguste, qui vit en Célidoine, et qui a ce don que l'on ne sent jamais une trop grande chaleur lorsqu'on en serre un des os dans sa main, quelle que soit l'ardeur du soleil ou du feu. La seconde côte était d'un petit poisson nommé Otonax, qui habite dans le fleuve Euphrate, et dont la vertu est telle, qui tient un de ses os, oublie toute joie ou douleur passée, et se souvient seulement de la raison qu'il a eue de le prendre. Ainsi était la poignée de l'épée. Et l'on y lisait « Je suis merveilleuse à voir, plus merveilleuse à connaître, car nul ne me peut empoigner, pour grande que soit sa main, hormis celui à qui je suis destinée. » « En nom Dieu, dit Perceval, je verrai si c'est moi. » Mais vainement il essaya de prendre l'arme par le pommeau, et Bors après lui. Quant à Galade, il déclara qu'il ne tenterait l'aventure que lorsqu'il aurait vu toutes les merveilles de l'épée. En effet, sur la lame à demi dégainée, des lettres vermeilles comme du sang disaient ceci. « Que nul ne soit si hardi que de me tirer du fourreau s'il ne doit mieux frapper et plus hardiment que tout autre, ou bien il en mourra. » « Par ma foi, dit Galade, je n'y mettrai pas la main. » « Attendez, sire, répondit la Pucelle, d'avoir tout regardé. » Le fourreau était de la couleur d'une rose sèche et fait d'une peau de serpent. Mais les ranges, par lesquelles on devait le suspendre au ceinturon, ne convenaient nullement à une si belle épée, car elles étaient des toupes de chanvre ou de quelque autre vile matière, et si faibles, en outre, qu'elles n'auraient pu supporter le poids de l'arme sans rompre. Et ceci était inscrit en lettres d'azur et d'or sur le fourreau couleur de rose. Malheur à qui voudrait changer ses ranges, car elles ne doivent être ôtées que par une fille de roi et de reine, et qui demeure pucelle toute sa vie. En leur place, elle mettra la chose d'elle-même qui lui sera le plus cher, et elle appellera cette épée par son droit nom, et moi par le mien. » Lorsque la pucelle leur eut lu cette inscription, les trois chevaliers se mirent à rire, disant que c'était là merveille. Et ils remarquèrent alors le lit, qui était de bois et muni de trois fuseaux. Le premier, planté au chevet, était plus blanc que neige neigée. Le second s'élevait en face du premier, et il était plus rouge que sang naturel. Le troisième s'étendait au sommet de ces deux-là, qu'il réunissait, et il était aussi vert qu'une émeraude. Telles étaient les couleurs des trois fuseaux, sans nulle peinture, car ils provenaient tous trois de l'arbre de science dont Ève avait emporté un rameau pour cacher sa nudité quand elle fut chassée du paradis terrestre, ainsi qu'Adam. Et comment cela arriva, puis comment le roi Salomon, par le conseil de sa femme, fit bâtir la nef incorruptible et planta les fuseaux autour du lit sur lequel il plaça l'épée merveilleuse qu'il avait faite, comment enfin la nef s'en alla toute seule sur la mer, où Nacien y monta, et où personne ensuite ne la rencontra plus avant Galaad et ses compagnons. Le livre de Merlin l'Enchanteur a suffisamment devisé de tout cela, en sorte qu'il n'y a pas d'utilité à le répéter. Cela alourdirait ce conte-ci, qui est très bon. Il faut seulement dire ce qui ne l'a pas encore été. C'est que, lorsque la nef fut prête et que toutes choses y eurent été disposées, Salomon la fit amarrer au rivage. Et la même nuit, il eut un songe. Il vit un homme qui descendait du ciel en compagnie de beaucoup d'anges et qui arrosait tout le navire d'eau bénite, disant « Cette nef signifiera ma nouvelle maison. » Ensuite, l'homme faisait écrire des lettres sur le bordage par un ange de sa compagnie. Après quoi, il s'évanouissait, de telle manière, avec les siens, qu'on aurait su dire ce qu'il était devenu. Le lendemain, sitôt que Salomon fut éveillé, il alla voir la nef, et trouva que les lettres tracées par les anges disaient ceci. « Ô homme qui veux entrer en moi, garde-toi de le faire si tu n'es plein de foi, et sache que je ne te soutiendrai plus et que je t'abandonnerai si tu tombes jamais en mécréance. » Et à peine eut-il lu cela, les voiles de la nef se gonflèrent, et le vent l'emporta sur la mer, où elle disparut en peu de temps. Et ce songe est de grand sens, car il montre que la nef incorruptible de Salomon signifie « Sainte Église ». C'est pourquoi il méritait d'être rapporté dans cette histoire. Chapitre 21. L'épée aux étranges ranges. Le comte dit ici que les trois compagnons de la Pucelle regardèrent longuement le lit, les fuseaux et l'épée, et tant qu'ils découvrirent sous le chevet une riche aumônière. Perceval, qui n'hésitait jamais, étant simple d'esprit, l'ouvrit aussitôt et y trouva un bref où était donnée la signifiance de la nef et de tout le reste. « Il nous faut aller en quête de la demoiselle qui changera ses ranges, » dit Galade, « car nul ne doit tirer cette épée ni l'ôter d'ici avant que ce soit fait. » « Beau sire, » dit alors la Pucelle qui jamais ne mentit, « s'il plaît à Dieu, l'épée aura ce qui lui manque. » Et elle tira d'un écrin qu'elle avait apporté des ranges bien ouvrées, ornées de pierreries, munies de deux boucles d'or et toutes faites de cheveux blonds, si beaux qu'on les eût pris pour des fils d'or. « Sire, » reprit-elle, « voici les ranges qui conviennent. Je les ai faites de la chose de moi que j'aimais le plus, mes cheveux. Et s'ils m'étaient chers, ce n'est pas merveille, car j'avais l'une des plus belles chevelures du monde. Mais, le jour de la Pentecôte que vous fûtes armé chevalier, je la fis tondre et la tressai pour former ces ranges que vous voyez. « En nom Dieu, demoiselle, » fit Bore, « vous nous mettez hors de peine. « Et maintenant, sire, » dit-il à Galade, « nous vous prions de ceindre cette épée aux étranges ranges. « Laissez-moi auparavant tenter de l'empoigner, » répondit Galade, « car si je n'y réussis, c'est qu'elle n'est pas pour moi. » Ce disant, il saisit l'épée aux étranges ranges et la serra si aisément que ses doigts se croisaient. Puis il la tira et elle parut, belle et claire, au point qu'on s'y fût aisément miré. Alors la demoiselle la lui ceignit, après lui avoir ôté celle qu'il portait, qui valait bien une comté, et qu'elle donna à Perceval. Peu me chaud maintenant de mourir, dit-elle, car j'ai fait chevalier le plus prud'homme du siècle. Demoiselle, répondit Galade, je suis votre à toujours. Chapitre 22. Le cerf blanc et les lions. Cependant, la nef vogua toute la nuit, et au matin aborda dans la Manche d'Écosse, non loin d'un château fort qui avait nom Cartelois. Les trois compagnons et la Pucelle qui jamais ne mentit descendirent, et, voyant au loin les tours de la forteresse, ils résolurent de s'y rendre à pied à travers bois. Mais la forêt était épaisse, en sorte qu'ils s'y perdirent peu après qu'ils y furent entrés. « Savez-vous ce que nous ferons ? » dit la Pucelle. « Prions le haut maître de nous indiquer notre voie. » Ils se mirent à genoux et demeurèrent en prières et oraisons depuis l'heure de prime jusqu'à celle de tierce. Et, après ce temps, ils virent sortir d'un fourré un cerf plus blanc que fleur naissante au pré, qui portait au cou une chaîne d'or. Autour de lui marchaient quatre lions, deux en avant, deux en arrière, qui le gardaient avec autant de soin qu'une mère son enfant. Mais ils passèrent devant la Pucelle et les chevaliers, sans leur faire aucun mal. « Suivons-les, » dit-elle, « car cette aventure est de par Dieu. » Ainsi firent-ils, et ils arrivèrent bientôt à une chapelle, où ils entrèrent derrière les animaux. Un prêtre, revêtu des armes de notre Seigneur, se préparait à y dire la messe du Saint-Esprit. Mais, à peine avait-il commencé, Galaad et ses compagnons virent le cerf se changer en un homme, qui s'assit dans une riche chaire dessus l'autel, tandis que les quatre lions se muaient, l'un en homme, le second en aigle, le troisième en lion ailé, le quatrième en bœuf. Puis tous quatre soulevèrent la chaire où siégeait l'homme, et s'envolèrent par une verrière sans briser un seul carreau. Et Galaad, Perceval, Bor et la pucelle qui jamais ne mentit connurent ainsi que les saints bêtes qui les avaient conduits signifiaient Jésus-Christ et les quatre évangélistes. Chapitre 23. La dame lépreuse et la pucelle qui jamais ne mentit. Ils passèrent la nuit chez le prud'homme, mais le lendemain, la messe ouïe, ils reprirent leur chemin vers le château. Et, comme ils y arrivaient, ils en virent sortir une dame, qui portait à la main une écuelle d'argent, escortée de 11 chevaliers armés. « Seigneur, demanda-t-elle, cette demoiselle est-elle pucelle ?»« Par ma foi, répondit Perceval, elle est telle que le jour qu'elle naquit. Il lui faut donc se soumettre à la coutume du château. » Et là-dessus, l'un des chevaliers prit par le frein le palefroid de la demoiselle. « Sire !» s'écria Perceval courroucé. « Vous n'êtes guère sage. Sachez qu'en quelque lieu qu'elle soit, une pucelle est libre et franche de toute coutume. » Mais la dame à l'écuelle reprit. « Chaque pucelle qui passe ici doit emplir cette écuelle du sang de son bras droit. » « Dieu m'aide, j'aimerais mieux être mort de vie de nuit que de laisser faire cela. » Et sans plus de paroles, Perceval rendit la main, piqua des deux et laissa court sur les gens du château, suivi de ses deux compagnons. Telle fut leur attaque que sans doute les 10 chevaliers eussent été oxys, si 40 autres fers vêtus n'étaient accourus à la rescousse. Mais Galaad frappait si fort de l'épée aux étranges ranges qu'il navrait tous ceux qu'il touchait. Quant à Perceval et Bor, ils ne faisaient pas moins d'armes, si bien qu'à la nuit noire, ils combattaient encore. Et voyant cela, l'un des chevaliers proposa de remettre la bataille au lendemain et offrit aux 3 compagnons de s'héberger au château. « Seigneur, dit aux 3 compagnons la pucelle qui jamais ne mentit, allez-y puisqu'il vous en prie. » Et elle entra avec eux dans la forteresse, où tous 4 furent très bien accueillis. Après le souper, l'un des chevaliers leur dit « Sachez, seigneur, qu'il y a 1 an, la dame de ce château devint lépreuse par la volonté de notre seigneur. Nous mandâmes vainement tous les médecins et maîtres de physique, jusqu'à ce que l'un d'eux nous dit enfin que, si nous pouvions avoir une pleine écuelle de sang de pucelle, vierge par volonté et par action, pour en oindre Notre-Dame, celle-ci guérirait rapidement. C'est pourquoi nous résolûmes de prendre la première qui passerait. « Seigneur, dit la pucelle, je puis donc guérir cette dame. Ne dois-je donner mon sang ? Par ma foi, vous n'en sauriez échapper sans mourir. Vous êtes trop faible et trop tendre, répondit Perceval. Mais « si je mourais pour la guérir, ce serait honneur pour moi et ma parenté. Et si je n'essaye, il vous faudra vous battre encore demain, dont viendront des pertes plus graves que celles de mon corps. Je vous prie de permettre que je donne mon sang. » Alors Galaad, Bor et Perceval le lui octroyèrent doucement. Le lendemain, après la messe, on amena la dame au château. Elle avait le visage si défait et si mangé qu'on s'émerveillait de la voir vivre encore. « Dame, lui dit la pucelle, je vais mourir pour votre guérison. Priez Dieu pour mon âme. » Elle se fit ouvrir la veine du bras au moyen d'une lamelle tranchante comme un rasoir, et son sang coula jusqu'à emplir l'écuelle. Alors son cœur s'évanouit, elle pâma dans les bras de ses compagnons. « Beau doux seigneur, dit-elle en reprenant son haleine, je vous prie de ne pas enterrer mon corps dans ce pays. Quand je serai morte, mettez-moi dans une nacelle, sans voile ni aviron, et j'irai où mon aventure me mènera. Demain vous vous séparerez. Chacun de vous suivra sa voie. Mais sachez qu'un jour vous vous retrouverez, car ainsi le veut le haut maître. » Et quand ils lui eurent promis de faire sa volonté, elle reçut le Corpus Domini, puis trépassa du siècle. Cependant, on lavait dans son sang la dame du château, qui fut ainsi nettoyée de sa lèpre, et dont la chair redevint aussi belle et fraîche qu'elle était auparavant noire, obscure et laide à voir. Galaad, Perceval et Bors firent embaumer le corps de la morte non moins richement que si c'eût été celui d'un empereur, après quoi ils le placèrent sur une nacelle, sans voile ni aviron, avec un bref où était relaté tout ce que la pucelle avait fait. Enfin, ils poussèrent la nacelle à la mer, et le vent l'emporta, gaillarde et légère. Tant qu'ils purent la voir, ils demeurèrent sur le rivage, pleurant si amèrement qu'on aurait su les entendre sans s'émouvoir. Et ils ne voulurent pas rentrer dans le château où était morte celle qui jamais ne mentit. Ils firent apporter leurs armes et amener au dehors les chevaux qu'on leur donna. Mais le comte laisse ici de parler d'eux pour un moment, voulant reprendre le propos de Lancelot. Chapitre 24. Lancelot et Galaad. Désarmé, étendu en croix au bord du fleuve qu'il ne pouvait franchir, il pria notre Seigneur jusqu'à ce que la nuit se fût mêlée au jour, puis jusqu'à ce que le soleil abattît la rosée. À ce moment, une nacelle, qui voguait sans voile ni aviron, vint aborder devant lui. Alors il reprit ses armes et il y monta en faisant le signe de la croix. À peine y eut-il mis le pied, il sentit toutes les meilleures odeurs du monde. Sa faim fut rassasiée, son cœur baigné de la plus douce joie, dont il rendit grâce à Dieu d'abord. Ensuite, il se retourna et découvrit, sur un lit très riche, une pucelle morte dont venaient les parfums. Auprès du corps était un bref qui disait comment elle avait changé les ranges de l'épée que portait présentement Galaad, et tout ce qui lui était arrivé, ainsi qu'à ses trois compagnons, et comment elle était morte pour guérir une étrangère, car c'était la pucelle qui jamais ne mentit. Et quand il connut tout cela, Lancelot fut encore plus joyeux que devant. Un mois et plus, il navigua sur la nacelle, et si quelqu'un demande de quoi il vécut durant tout ce temps, le comte répondra que celui qui fit jaillir l'eau de la roche pour abreuver le peuple d'Israël y veilla. Chaque matin, en finissant son oraison, quand Lancelot avait prié Dieu de lui envoyer son pain comme le père à son fils, soudain il se sentait plein de la grâce de notre Seigneur et il lui semblait qu'il était empli de toutes les bonnes viandes du monde. Une fois que la nef côtoyait une forêt, il entendit un grand bruit de branches rompues et de feuilles froissées, et il vit un chevalier qui galopait sous les arbres aussi vite que son cheval pouvait aller. D'elle-même, la nacelle aborda, et le cheval y entra après avoir décelé, débridé et chassé son destrier. Et quand il ôta son haume pour se signer, Lancelot reconnut Galaad. Il courut à son fils, les bras tendus, et tous deux sa colère, et l'eau du cœur leur monta aux yeux. Ils voguèrent de compagnie plus d'une demi-année, accostèrent des îles étrangères, et menèrent ensemble de merveilleuses aventures, à bonne fin par la grâce du Saint-Esprit. Mais ce comte du Graal n'en dit rien. Aussi bien, s'il voulait rapporter toutes choses comme elles advinrent, il n'en finirait point. Après Pâques, il arriva que la nacelle s'approcha d'une pointe de terre sur laquelle attendait un chevalier couvert de blanches armes qui tenait par le frein un destrier plus blanc que la fleurette d'avril. « Galaad, cria-t-il, vous avez été assez longtemps en compagnie de votre père. Allez maintenant à votre aventure. » Alors Galaad baisa Lancelot en pleurant. « Beau doux sire, lui dit-il, je ne sais si je vous reverrai jamais. Je vous recommande à notre Seigneur, qu'il vous maintienne à son service. » Il sortit de la nacelle, monta sur le destrier blanc, et, piquant des deux, s'enfuit à toute bride, droit comme carreau d'arbalète. Chapitre 25. Lancelot au château du Graal. Hélène Hassel vogua un mois encore. La 30e nuit, elle aborda près d'un château, beau et très fort, et Lancelot entendit une voix. « De par Dieu, disait-elle, descends et entre dans ce château. Tu y trouveras partie de ce que tu cherches. » Le temps était gracieux et serein, et la lune luisait, belle et claire, de façon que Lancelot vit bien que la porte de la forteresse était ouverte. Mais il aperçut qu'elle était gardée par deux lions, et il dégaina son épée pour les combattre. Aussitôt, une main flamboyante apparut, qui le frappa rudement au bras, et de nouveau la voix dit « Homme de peu de foi, pourquoi te fies-tu si peu à ton Créateur ? Crois-tu t'aider mieux de tes armes que de lui ?» Du coup qu'il avait reçu, Lancelot demeura quelque temps étourdi, tellement qu'il ne savait plus s'il était jour ou nuit. Mais, en revenant à lui, il remercia notre Seigneur d'avoir daigné le réprimander. Puis il remit son épée au fourreau, se signa et fut droit au lion, qui s'assirent et ne firent pas seulement mine de le toucher. La porte franchie de la sorte, il reconnut le château aventureux. Il suivit la grande rue sans voir personne, entra dans le palais qui semblait vide, traversa la salle silencieuse où le clair de lune coulait sans bruit par les verrières et fut arrêté par une porte close, derrière laquelle une voix chantait la gloire de Dieu avec tant de douceur qu'on sentait bien qu'elle n'était pas d'un homme mortel. Là, il s'agenouilla, suppliant Jésus-Christ de lui montrer l'objet de sa quête, comme la voix le lui avait promis. Alors, d'elle-même, la porte s'ouvrit. Il en sortit une grande clarté, si grande qu'on eût cru que le soleil tout entier était dans cette chambre et dardait ses rayons. Et quand il fut remis de son premier éblouissement, Lancelot aperçut le Saint Graal sur une table d'argent, recouvert d'une soie vermeille, tout entouré d'anges qui portaient les uns des encensoirs, les autres des cierges, d'autres la croix ou des ornements d'autel, et qui servaient un homme vêtu comme un prêtre, semblant dire la messe et élever l'hostie. À cette vue, Lancelot se mit debout et voulut passer le seuil. Mais aussitôt, un coup de vent lui vint à l'encontre, brûlant autant qu'un brasier ardent. Tout disparut à ses yeux, et il tomba comme mort. Le lendemain, les gens du château le trouvèrent devant la porte, aussi inerte et muet qu'une motte de terre. Ils le portèrent dans un lit très riche, où il demeura 24 jours en transe, sans manger, sans boire, sans remuer, sans sonner mot. Car sachez que notre sire voulut qu'il perdît le pouvoir de son corps et de ses membres durant autant de jours qu'il avait été damné au service de l'ennemi. Enfin il se réveilla, environ midi, vit sa haire qui pendait à une perche et voulut la reprendre, faisant paraître un grand chagrin de l'avoir quittée. Mais le roi Pélès, le riche pêcheur, qui était là, lui dit « Beau sire, vous pouvez bien laisser votre aire, car votre quête est achevée. Vous ne serez pas plus de la vérité du Saint Graal que ce que vous avez vu. » Toutefois, Lancelot revêtit la aire, et par-dessus, il passa une robe de lin et une d'écarlate qu'on lui apporta. Puis il demanda des nouvelles de la fille du roi Pélès, dont il avait eu son fils Galaad. Quand il apprit qu'elle était morte, il en sentit une très grande douleur en son cœur. Pourtant, l'heure du manger venue, lorsqu'il vit la colombe blanche voler par la salle, portant au bec son encensoir d'or, puis le Saint Graal paraître, suspendu dans l'air sous son voile de lin et passé devant les tables, d'où les mets les plus délicieux semblaient sortir, et qu'il trouva devant lui tout autant de bonnes viandes qu'il y en avait devant les chevaliers du château, alors il connut que Dieu l'avait favorisé de sa grâce, et son deuil s'apaisa. Chapitre 26. Hector au château du Graal. Cependant qu'il mangeait à côté du roi Pélès, un chevalier armé de toutes armes et monté sur un grand destrier entrait dans le château aventureux et suivait la maîtresse rue. Mais, à l'instant qu'il arrivait devant le palais, toutes les portes s'enfermèrent d'elles-mêmes. Le fer vêtu s'approcha de la grande porte et cria qu'on lui ouvrit. Puis, voyant qu'on n'en faisait rien, il commença de supplier qu'on le laissât entrer, tout en pleurant et lamentant si fort, qu'enfin le riche roi pêcheur alla à une fenêtre et lui dit « Sire chevalier, retournez dans votre pays, car vous n'entrerez point ici tant que le Saint Graal y sera. Sans doute êtes-vous de ceux qui ont laissé le service de Jésus-Christ et pris celui de l'ennemi. Je vous prie de me dire votre nom. » « Sire, j'ai nom Hector Desmar, frère de Monseigneur Lancelot du Lac, compagnon de la table ronde. »« En nom Dieu, reprit le roi, je suis dolent de ce qui vous advient, car votre frère est séant. »« Ah, Dieu, ma honte s'accroît de plus en plus, » dit Hector en baissant la tête. Là-dessus, il fit tourner son cheval et regagna aussi vite qu'il put la porte de la ville, hué par les habitants. Et sachez qu'il pleurait si fort que ses larmes coulaient jusqu'à terre. Lorsqu'il apprit du roi Pélès ce qui venait de se passer, Lancelot non plus ne put empêcher que l'eau du cœur ne lui vînt aux yeux. Et le repas fini, il annonça qu'il lui fallait retourner au royaume de l'ogre, dont il était parti depuis un an. Il revêtit ses armes, prit congé du roi. Puis, monté sur un bon destrier qu'on lui avait donné, il s'éloigna tristement. Et quand il eut cheminé un trait d'arc et qu'il se retourna pour apercevoir une dernière fois le château aventureux du Graal, il ne vit plus qu'une plaine nue. Quelques jours plus tard, passant près d'une abbaye, il remarqua dans le cimetière une grande et belle tombe qui lui parut nouvellement faite. Il s'en approcha et lut des lettres écrites qui disaient « Sigi, Yvain le Grand, fils du roi Urien de Gore, que tu as Gauvin, neveu du roi Artus. » Certes, tout autre que Monseigneur Gauvin, Lancelot lui poursuivit, et Oxy, car il aimait chèrement le fils du roi Urien. Mais il se contenta de prier, puis il reprit son chemin, et peu après, il parvint à la cour. Chapitre 27 Gauvin le meurtrier. La plupart des compagnons de la table ronde étaient de retour, et aucun d'eux n'avait eu d'aventure, car ils étaient tous trop souillés de péché pour être dignes de la haute quête célestielle du Saint Graal. Mais on disait que beaucoup s'étaient entretués sans se reconnaître, et que Messire Gauvin en avait aussi plus de 20 à lui tout seul. « Beau neveu, lui dit un jour le roi Artus, je vous requiers, de par le serment que vous me fîtes lorsque je vous armai chevalier, de m'enseigner combien de nos compagnons vous avez tués de votre main. » « Hélas, sire, répondit Messire Gauvin après avoir un peu pensé, il m'est avis que j'en ai bien tué 12. Non que je fusse meilleur chevalier qu'aucun d'eux, mais telle fut ma malchance. » Ah, Gauvin, c'est là une grande malchance, et elle vous advint en punition de vos péchés. Mais n'avez-vous pas aussi mon neveu Yvain, qui ne revient point ? Oui, sire, et aussi Aiglin des Vaux, et Agloval, et Bédover, et Quéchédin le Petit, et Carmaduc le Noir, et Marganor, et Queue d'Estro, et Bliobéris, et Banin, et Malquin le Gallois, et Méliore de l'Épine. Je n'ai jamais rien fait qui m'ait causé autant de chagrin. En nom Dieu, beau neveu, le cœur m'enseigne. Je perds plus par leur mort que par celle de 1000 chevaliers. Ce disant, le roi se mit à pleurer amèrement. Et durant un mois, il eut un tel chagrin que pour un peu plus, il fut devenu fou. La reine, de même, voyant la froide mine que lui faisait Lancelot, laissaient les larmes couler jour et nuit sur son clair visage. Et tous les prud'hommes aussi menaient grand deuil. Mais le comte retourne maintenant à Galaad, qui chevauche par la forêt sur un destrier couleur de neige, après avoir laissé son père dans la nef de la pucelle qui jamais ne mentit. Chapitre 28. Galaad, Perceval et Bor au château du Graal. Durant un an, il erra, et il fit si bien qu'il acheva toutes les aventures du royaume de l'ogre, et parce qu'en lui ne brûlait pas le mauvais feu de luxure, il éteignit la tombe de Siméon et la fontaine bouillante du roi Lancelot. Puis il fit rentrer en terre les 12 épées nues qui entouraient le tombeau flamboyant de Canaan. Ainsi fut délivré Canaan, comme Siméon l'avait été. Et pourquoi ils avaient été châtiés par notre Seigneur, le comte l'a rapporté en temps et lieu, de sorte qu'il n'y a pas d'utilité à le répéter. Enfin, Galaad rencontra Perceval et Bor. L'occasion les rassembla comme elle les avait séparés. Ils chevauchèrent tous trois de compagnie, et le jour même, Dieu voulut qu'ils découvrissent enfin le château aventureux, où le roi Pélès, le riche pêcheur, les festoya, car ils savaient bien que par leur venue, la haute quête serait mise à fin. Et sachez qu'il ne put s'empêcher de pleurer de tendresse en retrouvant son petit-fils, et, comme lui, pleurèrent tous ceux de ses chevaliers qui avaient jadis connu Galaad enfant. Aussitôt, les trois compagnons furent désarmés. Éliézer, le fils du roi pêcheur, leur apporta l'épée brisée dont Joseph d'Arimathie avait été frappé à la cuisse, comme le comte de Galeo l'a dit. Et dès que Galaad eut pris en main les deux tronçons, ils se rejoignirent si exactement que nul homme au monde n'eût su voir où la lame avait été rompue, en sorte que chacun jugea que c'était là un bon commencement. Mais, à l'heure de vêpre, soudain le ciel se couvrit. Un grand vent souffla dans le palais et une chaleur s'y répandit, telle que plusieurs pensèrent brûler et tombèrent de la peur qu'ils eurent, en même temps qu'une voix criait « Que ceux qui ne doivent avoir place à la table de Jésus-Christ s'en aillent !» Tout le monde sortit à ces mots, et il ne demeura que Galaad, Perceval et Bor. Au bout d'un instant, ils virent entrer 4 demoiselles, pleurant à chaudes larmes, qui portaient un lit de bois très richement muni de draps de soie, où tout était blanc comme neige. Et là-dedans, gisait un corps, soit d'homme ou de femme, on ne pouvait savoir, car il avait le visage couvert d'un linge. Les pleureuses déposèrent le lit et s'en allèrent. Et bientôt, les 4 compagnons virent les solives du plafond s'écarter, de façon que le ciel parut, puis un homme, vêtu comme un évêque, crosse en main et mitre en tête, descendit à travers les airs, assis sur une chaire que soutenaient 4 anges, et sur son front brillaient des lettres qui disaient « Voyez-ci Joséphée, le fils de Joseph d'Arimathie, le premier évêque des chrétiens, que notre sire sacra lui-même en la cité de Sarras, au palais spirituel. » L'évêque se leva et fut se prosterner devant le Saint Graal, qui venait d'apparaître sur sa table d'argent. Alors, les 4 anges qui étaient venus avec lui apportèrent 2 cierges ardents, un morceau de soie vermeille et une lance, d'où suintaient par la pointe de grosses gouttes de sang. L'évêque plaça cette lance dans le Graal, et de manière que le sang y tomba. Puis il commença de célébrer la sainte messe. Quand le moment fut venu, il prit dedans le très précieux vase une oublie en forme d'hostie, et comme il l'élevait, on vit un enfant descendre des cieux, le visage aussi rouge et embrasé que feu, qui se jeta dans le pain. Après quoi, Joséphée remit l'oubli dans le Saint Graal. Enfin, il acheva le service de la messe, donna le baiser de paix à Galaad, qui le transmit à ses compagnons, et s'évanouit si parfaitement que nul n'eût su dire ce qu'il était devenu. À ce moment, les trois chevaliers virent sortir du Saint-Vase un homme qui saignait des pieds, des mains et du côté, et ils se prosternèrent, le front dans la poussière. « Mes sergents, mes loyaux fils, leur dit l'homme, vous qui en ce monde êtes devenus célestiels, asseyez-vous à ma table. Les chevaliers du château aventureux et d'autres ont été repus de la grâce du Saint Graal, mais jamais ils n'ont été admis à prendre place ici comme vous. » Pleurant si tendrement que leur face était toute mouillée de larmes, les trois compagnons s'approchèrent de la table d'argent, et Galad s'y assit au milieu, et Perceval à sa droite et Bohor à sa gauche. Et l'homme prit le Saint Graal, vint à Galad qui s'agenouilla, les mains jointes, et lui donna son sauveur, puis de même aux autres. Et la suavité qui alors leur entra dans le corps, nulle langue ne saurait la dire. « Fils, dit l'homme à Galaad, sais-tu ce que tu tiens dans mes mains? C'est l'écuelle où Jésus-Christ mangea l'agneau le jour de Pâques avec ses disciples, et où Joseph d'Arimathie recueillit le sang du Sauveur. Maintenant, tu as vu la vérité que tu désirais, mais non pas si bien encore que tu la verras au palais spirituel dans la cité de Sarras, où il te faut accompagner le Saint Graal avec Perceval et Bohor. Toutefois, guéris auparavant Mordrin, le roi Mehaigné, en loignant du sang de cette lance, qui est celle dont l'engin frappa ton sauveur en croix. » Ayant dit, l'homme bénit les trois chevaliers, puis il disparut. Et Galaad, écartant le linge qui couvrait le corps gisant dans le lit qu'avaient apporté les pleureuses, découvrit un homme qui paraissait bien avoir 400 ans d'âge et qui portait une couronne d'or sur la tête. Il vint toucher de sa main le sang de notre Seigneur qui coulait de la lance et en oignit Mordrin, lequel retrouva aussitôt la vue et le pouvoir de son corps qu'il avait perdu par la volonté de Dieu, comme le comte en a autrefois devisé. Le vieux roi se mit sur son séant, les épaules et la poitrine nues jusqu'au nombril, et levant les mains au ciel, « Beau doux Père Jésus-Christ, dit-il, maintenant je te supplie de venir me chercher, car je ne pourrai trépasser en plus grande joie qu'à présent. Je ne suis plus que rose et lisse. » Il prit Galaad dans ses bras, l'étreignit par les flancs, le serra sur sa poitrine, et dans le même instant, notre sire prouva qu'il avait entendu sa prière, car l'âme lui partit du corps et il mourut, la tête sur l'épaule du bon chevalier. Chapitre 29. Le Graal au palais spirituel. Environ minuit, les trois compagnons sortirent du palais, et le lendemain, ils veillèrent que le roi Mehaigné fût enseveli comme il convenait à un roi. Puis ils prirent leurs armes, enfourchèrent leurs destriers et cheminèrent tant que le quatrième jour, ils parvinrent au rivage de la mer. La nef de Salomon les y attendait, où ils virent le Saint Graal, à nouveau couvert d'une soie vermeille, sur sa table d'argent. Dès qu'ils y furent montés, le vent les emporta. Et c'est de la sorte, sachez-le, que ceux du royaume de l'ogre perdirent pour leur péché le très précieux vase. Tout de même que notre sire le leur avait envoyé, il le leur retira. Longtemps la nef vogua, et nulle terre n'était en vue. Un jour, Perceval et Bohor dirent à Galaad, « Sire, vous ne vous êtes jamais couché dans le lit aux trois fuseaux, quoique le bref dise que vous devez s'y reposer. » Galaad s'y coucha et s'endormit, la couronne d'or sur la tête. Et quand il se réveilla, la nef était devant la cité de Sarras. Alors il prit la table d'argent sur laquelle se trouvait le Saint Graal pour la transporter au palais spirituel avec l'aide de Perceval et de Bohor. Mais, comme ils allaient entrer dans la ville, ils virent un homme impotent qui mendiait à la porte, et Galaad, qui était là, car la table était lourde, l'appela et lui demanda de l'aider. « Ah, sire, que dites-vous ? » répondit le mendiant. « Il y a bien 10 ans que je ne me traîne plus qu'à l'aide de ces 2 bâtons. » « Essaye, fais de ton mieux !» Aussitôt, l'homme se leva, sain comme s'il n'avait jamais été malade, et courant à la table, il aida Galaad à la soutenir. Ainsi arrivèrent-ils devant le roi. C'était un mécréant, extrait de lignage sarrasinois. Quand il vit que les 3 compagnons étaient désarmés, il s'écria qu'ils étaient larrons et enchanteurs, et les fit prendre et enfermé dans une chartre obscure. Mais notre sire ne les oublia pas. Il leur envoya le Saint Graal pour les réconforter, les repaître et leur tenir compagnie. Et le dernier jour de l'année, le roi tomba malade et mourut. Comme il n'avait ni enfant ni parent, les habitants s'assemblèrent en parlement pour désigner son successeur. Or, tandis qu'ils étaient réunis, ils entendirent une voix. « Prenez, disait-elle, le plus jeune des 3 chevaliers que le roi a fait emprisonner à tort. Il vous défendra et tiendra le royaume en paix. » Ainsi fut fait. Les gens de sa race vinrent délivrer Galaad et lui posèrent la couronne sur la tête, malgré qu'il en eût. Et son premier soin fut de bâtir une arche d'or et de pierres précieuses pour recevoir le Graal et la table d'argent dans le palais spirituel. Chapitre 30. Mort de Galaad, ravissement du Saint Graal. Chaque matin, il venait avec ses compagnons pour faire ses prières et oraisons devant le Saint Vase, et ainsi durant 1 année. Le premier jour de l'an, ils y trouvèrent l'évêque Joséphée qui battait sa coulpe, à genoux, tout entouré d'anges. Au bout d'un moment, il se leva et commença de dire la messe de la glorieuse Mère de Dieu. Puis, quand il eut ôté la patène du Saint Graal, il appela Galaad et lui enjoignit de regarder ce qu'il avait tant désiré de voir. Le roi avança, et sitôt qu'il eut jeté les yeux à l'intérieur du très précieux vaisseau et considéré les choses spirituelles, il se mit à trembler, et levant les mains au ciel, « Sire, je te crie merci d'avoir ainsi accompli mon désir, et maintenant je te supplie de permettre que je trépasse de cette vie terrestre à la céleste ciel. » Il reçut humblement le corpus domini que Joséphée vint lui offrir, puis il vint baiser Perceval et Bor et les recommanda à Jésus-Christ. « Beaux doux amis, leur dit-il, vous garderez cette cité quand je n'y serai plus. » Ayant dit, il se coucha en croix, et son âme laissa son corps, et fut emportée par les anges à grande joie. Or, dès qu'il eut expiré, une main sans corps, qui répandait une merveilleuse clarté, descendit et ravit au ciel le vase très saint. Depuis lors, il n'y a jamais eu aucun homme, si hardi fut-il, qui ait osé prétendre qu'il l'avait vu. C'est pourquoi le comte s'en tait à présent. Et ici finit le livre des aventures du Saint Graal. Explicite.